BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Closier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot le Mag. Cette semaine, on va décortiquer la stratégie RH de PwC. On sera avec sa DRH dans un instant. On va parler des conflits en entreprise. Le sentiment d'inéquité monte. Ça sera notre sujet avec Arnaud Gilberton d'Idoco. Et puis, pourquoi vous perdez du temps à penser que vous êtes nul? Il vous faut un petit coaching. Ça sera avec Jenny Chamas en fin d'émission. Happy Boulot le Mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot le Mag. L'exécutif de la semaine.
Et notre exécutive cette semaine, c'est Valérie Vézinet. Bonjour, DRH de PwC France et Maghreb. 6000 collaborateurs en France et au Maghreb, évidemment, du conseil, de l'audit, de l'expertise juridique. Dans quel état d'esprit on est chez vous avec cette cinquième vague et ce retour à nouveau au télétravail?
Bonjour Laure, un petit peu de lassitude quand même de ces vagues successives. Néanmoins, on est organisé pour s'adapter. Maintenant, on a adopté une organisation agile comme beaucoup d'entreprises. Hein, donc, la lassitude, notamment pour certaines personnes, voilà, qui sont pas forcément très bien installées à domicile, mais on voit le bout du tunnel. Donc, voilà, on est adapté plus qu'il y a 2 ans.
Mais on se dit justement, une entreprise comme la vôtre, de consultants, de jeunes, de geeks, pas de problème, ils peuvent retourner en télétravail, ils savent faire.
Alors la question, évidemment, c'est
on est des privilégiés,
oui. Donc on va être humble sur le sujet de l'adaptabilité, parce qu'on a une moyenne d'âge de 32 ans, avec des gens qui ont fait des études, qui sont digital natives, enfin tous ces sujets-là qui sont... Donc évidemment, sur le savoir-faire, je pense qu'on est, oui, on est d'accord, hein, y a pas de problème, on y est. En revanche, c'est évidemment, l'être humain est un individu social, donc a besoin de liens sociaux, et quoi qu'on en dise, ça nous manque, parce qu'on travaille éminemment en projet, en équipe, en permanence chez PwC. Et donc, il est très important pour les projets, mais aussi pour les liens qu'on entretient entre êtres humains, de pouvoir se voir de temps en temps.
Vous avez un recrutement très important par an, avec une rotation importante de salariés. Ça veut dire que vous en avez qui n'ont jamais vu ni l'entreprise, ni celle où ils vont consulter?
Alors, il y en a même beaucoup, qui ont été recrutés de façon totalement digitalisée. Néanmoins, on s'est rapidement dit, c'est absolument important et essentiel de créer un lien. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a maintenu nos intégrations en présentiel dans les locaux, de façon que ceux qui ont été recrutés de façon distancielle puissent, à un moment donné, atterrir concrètement et physiquement chez nous.
Vous avez lancé une nouvelle politique de gestion des talents, nouvelle équation talent, un nouveau programme. C'est quoi globalement?
Alors c'est la déclinaison pour nos collaborateurs de la stratégie mondiale PwC, donc la nouvelle équation talent, avec une volonté qui était d'aller un peu au-delà de ce qu'on appelle la value proposition ou la proposition de valeur de l'employeur, mais d'établir un contrat et de dire voilà, nous, ce qu'on va vous proposer et ce qu'on va attendre en retour. Et en rapport avec la stratégie business, en fait, on a lancé finalement 4 piliers. Alors les missions, et en droite ligne avec la stratégie, beaucoup d'investissements sur des missions à caractère technologique ou basées avec une composante technologique, une composante développement durable qui est un incontournable sur lequel on investit de façon intensive, et donc les missions qui vont être alignées avec ces 2 piliers, le développement des talents aussi. Donc je vous parlais de technologie, de développement durable, c'est des sujets sur lesquels on a lancé des investissements majeurs sur le développement des compétences. Et il y a un troisième pilier aussi qui fait partie de notre stratégie et qu'on considère comme une compétence, c'est l'inclusion des diversités. Être inclusif aujourd'hui, que on considère que c'est une compétence indispensable pour la performance collective à l'avenir.
À tel point que vous avez des formations en inclusion.
Exactement.
On apprend quoi là-dedans? Alors, pour tout le monde, hein, c'est tous les salariés.
Tous les salariés, quel que soit son métier, ont un cycle de formation sur la technologie, le développement durable et l'inclusion. Et sur l'inclusion, qu'est-ce qu'on apprend en premier lieu? On apprend à être au clair sur ses biais, puisqu'on a tous des biais, on en a,
ouais,
toutes les deux des biais,
oui,
et donc il faut être au clair sur quels sont nos biais, et puis comment on travaille sur ces biais-là, parce qu'il faut en prendre conscience, et puis ensuite il faut travailler là-dessus. Et donc c'est à la fois dans nos relations avec des collègues, en recrutement.
Mais donc il y a une relation à l'intime.
Il y a une relation à l'intime, alors chacun a son garde son intimité, hein. On prétend pas rentrer là-dedans, mais évidemment on rentre dans des sujets qui sont éminemment intimes parce que ils sont issus de notre éducation, notre milieu social, de tas de choses qui échappent à l'employeur, mais on tend un miroir pour faire en sorte que chacun comprenne venant d'où il vient ou d'où elle vient finalement.
Et qui c'est qui fait ces formations en inclusion? Vous faites appel à des gens de l'extérieur?
Un mix de pas mal de sources en fait. Donc on a des formations qui sont globales parce que ça fait partie de la stratégie globale. On a aussi des formations qui sont beaucoup plus locales, et puis tout va dépendre de la population à laquelle on s'adresse. Si on s'adresse au management, on va les mettre aussi en situation, et donc on a travaillé avec des prestataires et des partenaires en diversité qui sont français, et on met en situation notre management pour...
C'est bien pris par l'ensemble de votre population, où certains se disent, écoutez, j'ai pas besoin de vous pour m'apprendre la politesse, je sais comment me comporter avec mes collègues.
Alors on a déjà commencé, alors en général c'est très bien pris parce qu'il y a une vraie attente en fait sur ces populations qui sont la moyenne d'âge, je vous en ai parlé, il y a une vraie attente sur ces sujets d'inclusion.
Donc, justement, on pourrait se dire, ils sont jeunes, ils savent déjà.
Alors tout le monde n'a pas la prétention de savoir, et pour ceux qui ont la prétention de savoir, on les fait tester en direct leur biais. Et puis j'ai assisté à des formations qui étaient assez éclairantes sur finalement, en partant d'une croyance que nous on sait ce que c'est et on n'a pas de biais, finalement on se rend compte que on en a et qu'on se rend pas compte de à quel point on peut être discriminant dans certaines situations.
Quand vous dites aujourd'hui on a une population qui attend beaucoup sur l'inclusion, ça veut dire que vous avez des jeunes qui sont très attentifs, qui vous remontent des problématiques internes de gestion de salariés, ils sont beaucoup plus proactifs dans leur manière de voir la manière dont on travaille.
Alors il y a deux choses. Un, avant même le recrutement, ils attendent, mais pas seulement ceux qui viennent chez nous, mais de leur employeur en général, que leur employeur soit inclusif. Ça c'est devenu un critère qui fait partie des critères clés. Et le deuxième sujet, c'est qu'ils ont beaucoup moins de tolérance que les générations précédentes à des situations qu'ils vont considérer comme anormales dans l'entreprise. Et donc ils vont avoir tendance, et c'est un bien, à être beaucoup plus vocaux.
Donc potentiellement ils viennent vous voir, parce que il y a 10 ans, même il y a 5 ans, vous ne seriez jamais allé voir votre DRH en disant que Jean-Pierre au bout du couloir, de temps en temps il est un peu lourd.
Alors ils vont pas forcément tous venir me voir, mais
ils n'acceptent plus.
On a mis en place un écosystème interne qui permet de remonter des feedbacks, des signalements, des alertes.
La formation 100% pour tous les salariés, c'est un peu votre marque de fabrique. Tout le monde est formé au même niveau. C'est quoi la formation de demain, une fois que vous aurez fait tout l'inclusion, tout le développement durable, toute la techno? Qu'est-ce qu'il faudra faire?
Alors il y en a des tas. Moi j'ai un sujet qui sera peut-être pas formation en tant que tel, mais qui me préoccupe, c'est que on a vu, et ça c'était le côté positif des deux ans de crise qu'on vient de vivre, un accélérateur des modes de travail, de l'organisation du travail. On n'aurait jamais atteint ça en 2 ans, on l'aurait fait en 10-15 ans. Et donc aujourd'hui, finalement, c'est comment est-ce qu'on adapte le management et les compétences du management à ce nouveau monde, en fait. Ça existait avant, mais là, aujourd'hui, c'est devenu absolument essentiel de travailler de façon multiculturelle, de façon inclusive, de façon hybride, parce que tout le monde ne sera plus dans les mêmes locaux en même temps. Et le management, aujourd'hui, il faut le développer et l'aider à passer ses caps et trouver des accélérateurs. Donc ce ne sera peut-être pas tous les salariés, mais il y a une population qui
nécessite... Ça sera peut-être tous vos managers.
Mais ça sera
justement, vous les avez vus évoluer pendant la crise, post-crise, recrise, re-recrise. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Il faut prendre soin des salariés, certes, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Les appeler au quotidien, créer des petits événements? Vous leur avez dit comment les gérer humainement?
Alors, on leur a dit plusieurs choses. Effectivement, au départ, on leur a dit soyez beaucoup plus proches, soyez beaucoup plus attentifs à ce qu'on appelle les signaux faibles, parce qu'à travers un écran, forcément, on ne voit pas tout ce qui se passe. Et là, on leur dit autre chose. On est en train de leur dire d'être le plus descriptif possible de leurs attentes, parce que sur le travail hybride, auparavant, en tant que manager, vous ne posiez pas la question de savoir si un salarié venait le lendemain, puisque par défaut, il venait. Et donc, il y a quelques mois ou quelques semaines, les managers nous ont dit, mais finalement, moi, quand je dis rien, les salariés viennent pas forcément. Et donc, on leur a demandé d'être beaucoup plus explicites. Donc, il y a la question d'être plus attentif.
Sur communication,
notre explicite sur les moments pendant lesquels ils vont attendre que tout le monde soit présent, dans les moments, les moments qui sont optionnels, les moments obligatoires, enfin, l'organisation qu'ils souhaitent impulser au travail à l'intérieur de leur équipe, que ce soit mode projet ou mode équipe un peu hors projet. Et ce côté explicite, c'est vraiment un sujet d'apprentissage, parce que évidemment, il y a 2 ans, on s'attendait à ce que tout le monde vienne au bureau, et aujourd'hui on ne peut plus s'attendre à ça.
Dans les DRH qu'on reçoit, on pourrait presque les mettre en deux catégories. Ceux qui disent qu'il faut gérer cas par cas les problèmes de chaque salarié, les problèmes de chaque équipe. Et ceux qui disent que ça n'est pas possible, nous devons mettre en place des règles et que tout le monde les suive, sinon on ne s'en sortira pas. Vous faites partie de quelle équipe ?
Moi, je suis plutôt partie de l'équipe agile, c'est-à-dire que, sans parler du fait que d'autres seraient moins agiles, mais on est dans notre organisation obligé de s'adapter en permanence, lié en fait à notre organisation projet, lié à nos clients. Et donc, en fait, il faut qu'on ait une approche quand même qui soit assez spécifique à des besoins au niveau des clients, des besoins au niveau de l'équipe, du contexte du projet entanté. Et donc, je suis plutôt dans l'équipe, effectivement, essayer, alors non pas de customiser tout à l'individu, mais en tout cas de customiser le plus possible à l'équipe.
Et vous, après ces deux ans de crise, est-ce que vous avez encore envie de gérer des gens ?
J'ai encore envie.
Ça vous amuse toujours, ça vous plaît
ça
toujours.
Et en fait, paradoxalement, donc les DRH évidemment ont beaucoup, enfin les ressources humaines en général ont beaucoup trimé pendant la crise, en inventant des nouvelles solutions tous les jours avec des nouveaux problèmes qui arrivaient tous les jours. Mais paradoxalement, ça a positionné les ressources humaines, je trouve, dans une situation un peu inédite au sein de l'entreprise et nous a permis aussi de trouver des accélérateurs à des sujets qu'on avait dans nos cartons et qu'on avait du mal à poser sur la table pour décision.
C'est le moment, quoi.
Et donc, ces transformations des modes de travail, en fait, finalement, l'opportunité, c'est de les accélérer. C'est ce qui s'est produit dans les entreprises.
Donc, vous continuez. Vous avez toujours envie.
Continue.
Merci beaucoup, Valérie Vizinet, d'être venue nous voir. DRH de PwC France et Maghreb. On va parler du conflit dans les entreprises. Il paraît que ça se tend.
BFM Business. Happy Boulot, le mag. Better Together.
Et on est avec Arnaud Gilberton, fondateur d'Idoco. Bonjour Arnaud.
Bonjour Laure.
Il paraît que ça se tend dans certaines entreprises. J'ai même vu sur ce plateau certaines boîtes accorder des jours de congé pour qu'on puisse un petit peu faire redescendre la pression dans des PME comme dans des plus grosses boîtes. Une certaine tension, fatigue, irritabilité. Comment on peut faire redescendre un petit peu tout ça ?
Alors, faire redescendre tout ça, c'est compliqué. Ce qui est sûr, c'est que oui, aujourd'hui, on observe beaucoup de tensions sociales, qui sont des conflits de faible intensité, des incivilités, une forme de fatigue psychologique. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de payer bientôt 2 ans de distanciation sociale, de bouleversements profonds des habitudes de travail des salariés. On le voyait en octobre, il y a une étude OpinionWay qui nous disait que 38% des salariés se déclaraient en détresse psychologique. On a depuis le début de la crise sanitaire à peu près 20% des salariés qui ont été arrêtés, donc en arrêt de travail, pour des raisons de souffrance psychologique. Donc on est sur un terrain de souffrance psychologique ou en tout cas difficulté psychologique qui est quand même assez fort.
20% de salariés arrêtés pour souffrance psychologique.
C'est ça, ou en tout cas avec beaucoup. Une cause psychologique depuis le début de la crise sanitaire. Alors ça peut être des petits arrêts, mais en tout cas la dimension psychologique rentre en compte. Donc cette question de la santé psychologique aujourd'hui, elle est centrale. Et on voit des salariés qui, sans forcément être en détresse, se disent fatigués, épuisés. On a vécu l'année dernière des allers-retours entre des périodes de confinement, de télétravail, de non-télétravail. Et puis on a vécu... avec la fin de l'année, un moment un peu compliqué, c'est-à-dire que normalement la fin de l'année c'est le moment des pots de Noël, le début de l'année c'est le moment des galettes des rois, et là rien. On a beaucoup de personnes qui ont vécu aussi des fêtes de fin d'année compliquées, beaucoup de cas contacts, donc oui, le moral est bas. Et dans cette situation, on voit des tensions apparaître entre équipes, avec des salariés qui sont soit un peu en décrochage professionnel, soit démobilisés, soit fatigués.
Soit complètement coup, à donf, c'est soit complètement mobilisé.
Super engagé, et donc du coup ça crée aussi des situations d'inéquité au sein des équipes, ou en tout cas voilà, de salariés qui vont être très engagés, qui vont être très à l'aise avec le télétravail, versus d'autres salariés qui vont être inquiets par rapport à la crise sanitaire. Et donc tout ça... met en place, on va dire, un climat social qui aujourd'hui, oui, clairement est compliqué.
Comment on en parlait justement avec la DRH de PwC qui était là avant, qui disait, moi je suis plutôt dans le groupe des DRH qui pensent qu'il faut faire du cas par cas plutôt que de faire les mêmes règles pour tout le monde. On a justement dans les entreprises ce sujet d'équité entre les salariés, ceux qui sont à fond, ceux qui le sont moins, ceux qu'on considère parfois avoir un traitement de faveur. C'est difficile en tant que DRH de savoir comment agir.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est la grande question des DRH. C'est de se dire quel va être le cadre collectif et les règles du jeu collectif qu'on peut appliquer dans la durée par rapport au télétravail. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de salariés qui ont des attentes très individuelles. Certains salariés ont envie d'être beaucoup présents au bureau. D'autres salariés ont déménagé, ont pris une maison à la campagne, ont envie d'être à distance. Et la tentation des DRH, c'est effectivement de faire un peu de cas par cas. Alors, le cas par cas, pour maintenir les équipes mobilisées, il est intéressant. Mais en même temps, aujourd'hui, il y a aussi besoin d'avoir un cadre commun qui puisse s'appliquer à l'ensemble des salariés, donc d'avoir quelques règles du jeu qui soient claires et bien comprises par tout le monde pour éviter justement ces sentiments d'inéquité.
Mais c'est très complexe quand même, parce que entre celui à qui on a autorisé de partir justement un peu plus loin, celui qui n'en a pas besoin mais qui jalouse peut-être celui qui est parti, il faut quoi, une cellule psychologique chez les DRH pour gérer ça, pour faire le tampon?
Alors, je suis pas sûr que ce soit une cellule psychologique, mais par contre, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que l'enjeu des fonctions RH, c'est de se rapprocher des salariés et c'est d'être vraiment à l'écoute des salariés. Et pour ça, je pense que ça demande d'investir vraiment sur les fonctions RH et de faire en sorte que les acteurs RH puissent être en proximité des salariés, puissent comprendre, puissent écouter. C'est de faire aussi en sorte qu'on puisse anticiper des situations de conflit. Nous, chez Idoco, par exemple, on met en place des lignes d'écoute que les salariés peuvent contacter lorsqu'il y a une incompréhension, un malaise, potentiellement une discrimination ou un sentiment de harcèlement, pour avoir en tout cas un professionnel avec qui échanger. Donc je pense que cette notion d'écoute aujourd'hui, elle est importante. Les RH doivent se rapprocher au maximum du terrain, et on voit beaucoup de fonctions RH qui mettent en place ce qu'on appelle des fonctions employee relations, sur le modèle d'ailleurs des grandes entreprises anglo-saxonnes, qui consistent justement à avoir des professionnels RH dédiés au climat social et à un dialogue avec les salariés en proximité du terrain. Donc ça, je pense que c'est important.
Qui ne font que ça en fait, qui font que de l'écoute. Parce que justement, ces lignes, il y a la critique de ces lignes d'écoute, c'est de dire on externalise, c'est-à-dire qu'on ne sait pas faire, les managers ne savent pas écouter, donc je vais prendre quelqu'un de l'extérieur qui sait mieux faire que moi. C'est aussi un problème.
Alors, le problème des lignes d'écoute aujourd'hui, c'est que si la ligne d'écoute s'arrête juste à une écoute avec un psychologue, ça ne donne pas grand-chose. L'enjeu d'une ligne d'écoute, c'est derrière de faire le lien avec l'entreprise. Donc c'est de faire en sorte que la matière collectée à l'occasion de ces échanges avec les salariés puissent guider des politiques RH et orienter des actions concrètes dans l'entreprise. Si c'est juste une écoute qui ne donne pas d'action derrière, ça ne sert à rien. C'est pour ça que nous, les lignes d'écoute qu'on met en place derrière, elles visent à mettre en place des coachings, des actions de médiation, des actions d'accompagnement, des formations des managers qui sont ciblées en fonction des besoins des différentes équipes. Donc je pense que cette écoute, elle est importante. Et aujourd'hui, la question du cadre, c'est un peu la question du contrat employeur. La question, c'est quel contrat passer avec les salariés, quel nouveau contrat employeur passer. Et donc dans ce contrat, ce qu'on appelle le contrat employeur, c'est vraiment les règles du jeu, les règles de vie collective, avec à la fois, je pense, des possibilités de flexibilité, des possibilités de télétravail dans la durée, mais en même temps, le maintien d'un cadre commun valorisant les temps collectifs, la participation à la vie sociale de l'entreprise et des moments permettant aux salariés de se rencontrer, d'échanger, de créer du lien social.
Mais ça veut dire exploser le planning, c'est-à-dire prendre le planning sur l'année et dire là, ça c'est des moments collectifs particuliers, c'est plus la semaine telle qu'on la conçoit.
Ça veut dire, je pense, inventer des nouveaux rituels, inventer des nouvelles habitudes de travail, de rencontres, de réunions, et c'est pour ça que c'est un vrai challenge managérial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau des entreprises, des DRH comme des directions d'entreprise, je pense qu'il faut arriver à repenser réellement l'animation des équipes au sens large, et effectivement, le faire sur une année, le faire de manière pérenne, en essayant d'identifier à la fois des temps de rencontre, des temps collectifs, et en même temps en garantissant le maximum de souplesse. Cette question des rituels managériaux aujourd'hui, elle est centrale dans plein d'entreprises.
Alors j'ai une question compliquée, auquel je ne sais pas si vous avez la réponse, mais on parle justement de tous ces managers qui doivent apprendre à écouter, à créer du temps collectif. Qu'est-ce qu'on fait de tous ceux qui n'y arrivent pas? Est-ce qu'on les reforme à autre chose? Est-ce qu'on les renvoie dans le civil, dans l'exécutif? Est-ce qu'il y a des managers qui doivent arrêter de manager?
Oui, je pense. Il y a des managers qui ne sont pas faits pour le management. Après, l'objectif, c'est d'accompagner les managers. Aujourd'hui, il y a une vraie question de leadership dans les entreprises. Alors, le mot leadership, c'est un grand mot, mais ce qu'on appelle leadership, c'est la capacité à entraîner, à mobiliser, à donner une vision, à donner du sens, à écouter. C'est toutes les soft skills d'un manager. Et le leadership, il s'évalue dans les temps de crise. C'est facile d'avoir du leadership quand tout va bien. C'est beaucoup plus compliqué quand on est dans une situation de démobilisation, de conflit et de tension sociale. Donc aujourd'hui, dans les entreprises, on a besoin de leadership. On a besoin d'avoir des managers, d'avoir des dirigeants qui ont un vrai discours engageant auprès des salariés. Et c'est pour ça que finalement, cette crise sanitaire, c'est aussi un peu une épreuve. Pour les dirigeants, pour les managers, c'est une épreuve de leadership. Et là, 2022, ça va être un moment décisif dans beaucoup d'entreprises pour réengager de manière durable et pérenne les salariés.
Merci beaucoup Arnaud Gilberton d'être venu nous voir, fondateur d'Idoco. On a besoin de coaching, justement, c'est notre sujet suivant.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business Case.
Et on va parler ensemble du sentiment d'illégitimité. On est avec Jenny Chamas. Bonjour, vous êtes coach spécialisée notamment dans les femmes dirigeantes. Vous avez écrit un livre, Ambitieuse et épanouie, ce qui est... pas simple. Vous allez nous dire comment.
Tout un programme.
Comment on fait? Est-ce que les femmes ont encore aujourd'hui, en 2022, alors qu'on a plein de femmes dirigeantes, peut-être vous allez me dire certainement pas assez, mais on a quand même pas mal de modèles, on a même plein de femmes candidates à la présidentielle, on a encore besoin d'expliquer aux femmes qu'elles ont le droit de diriger, qu'elles ont le droit de prendre le pouvoir, qu'elles ont le droit de demander des augmentations?
Oui, je crois qu'il suffit pas de le dire, il faut aussi les accompagner à vraiment le penser et l'incarner profondément. La preuve en est que très récemment, c'était en octobre 2021, l'IFOP et Michael Page ont fait ensemble une étude sur les cadres dirigeants et ont montré que le premier frein des femmes à l'accession de ces postes de cadres dirigeants, c'est le sentiment d'illégitimité. Donc oui, il faut encore les aider à lever cette barrière interne, croire qu'elles ont leur place et se faire leur place.
Comment vous faites pour les aider, pour changer leur manière de penser, pour enlever les verrous ?
Eh bien, on travaille à la fois de la formation, vraiment de leadership, et en même temps accompagné par du coaching. Parce que les plus grandes barrières sont internes, et ça se travaille sur la durée. Pour aider les leaders, on leur fait une petite formation, toujours très qualitative, sauf que le problème, c'est qu'on oublie qu'après, il y a tout un suivi et que les barrières mentales, elles sont là depuis longtemps, ça fait des années, parfois même des générations, et qu'il faut un travail de fond, en fait, pour les lever.
Mais en fait, j'ai presque besoin que vous me disiez exactement ce que vous leur dites. C'est-à-dire que, par exemple, vous leur dites, regardez, vous êtes quand même surdiplômés. À un moment donné, nous, on a du mal à faire venir des femmes expertes. Elles ont, si c'est pas pile le sujet qu'elles connaissent par cœur, elles se disent une question à côté, je vais pas pouvoir répondre, j'ai peur.
Oui, alors là, c'est vraiment du travail de répétition. C'est-à-dire que nous, on les accompagne avec des méthodes basées sur les neurosciences. J'ai toute une équipe qui a été formée aux États-Unis pour ça. Et l'idée, c'est qu'elles amènent leurs problèmes du quotidien. J'ai une réunion au COMEX, je dois vendre une idée, etc. Et qu'en fait, on travaille sur ces éléments du quotidien en allant voir qu'est-ce qui bloque. Pourquoi ça bloque? Quelles sont les pensées, les émotions qui vont les empêcher en fait d'aller vendre leurs idées, d'aller porter leurs projets? Et étape par étape, situation par situation, elles s'habituent à le dénouer. Ce qui fait qu'au bout du compte, après avoir été formées, coachées, elles savent dénouer ça.
Vous faites du cas pratique en fait.
Exactement.
Vous dites qu'il faut hacker son cerveau.
Exactement.
Ça veut dire quoi?
Eh bien, hacker son cerveau, c'est vraiment partir du principe que il y a tout un tas de choses qu'on ne contrôle pas. Une situation, des décisions d'entreprise, ce qui se passe, la pandémie par exemple. Et puis, il y a tout un tas de choses en nous qu'on contrôle. Nos pensées, nos émotions et la façon qu'on a de se mettre en action. Et donc, hacker son cerveau, c'est vraiment aller à la racine, aller regarder qu'est-ce qu'on pense, pourquoi on pense ça, et est-ce qu'on est toujours d'accord pour penser comme ça ? Parce que c'est ce qu'on pense qui va faire qu'on se sent illégitime, qui va faire qu'on n'ose pas postuler à un poste parce qu'on a peur de perdre son équilibre de vie. C'est un autre frein pour les femmes. Dès lors qu'on voit qu'en fait ce sont nos freins, on est capable d'aller les lever. On est capable d'aller se dire...
Mettre les mots dessus, déjà les avoir vus, ça...
Prendre conscience, c'est déjà un énorme pas vers la libération en tant que telle. Et puis après, c'est de l'entraînement et de la répétition.
On a beaucoup de femmes au poste de junior, au poste de management intermédiaire. On a du mal à passer vraiment au top management. Et pourtant, moi, je ne reçois sur ce plateau que des DRH qui ont mis en place dans les boîtes des politiques d'inclusion, de formation au top management. Pourquoi ça n'avance pas ?
Eh bien, pour que ça avance, il faut deux choses. Il faut d'une part que les entreprises mettent en place ce qu'il faut, donc là vous parlez des DRH, et puis il faut que les femmes elles aient envie. Et donc pour qu'elles aient cette envie, il faut aussi qu'elles lèvent ces barrières. Donc ce qui bloque, c'est de se dire, ok, est-ce que je me vois à ce poste? Et pour se voir, pour vraiment se visualiser dans un poste, ce qui aide beaucoup, c'est d'avoir des rôles modèles. Or, vous le disiez, on a de plus en plus de rôles modèles. Ça reste quand même aujourd'hui assez faible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a la loi Rixin qui a été votée. C'est que le dire ne suffit pas. Maintenant, il faut mettre des quotas pour que ça se fasse. Et donc, tant qu'on n'a pas tout à fait les rôles modèles, bien, il va falloir aller les inventer dans son esprit. Ok, quel leader j'ai envie d'être ? Ça se fait pas spontanément. On n'apprend pas à être leader. On n'apprend pas à se rêver dirigeante si on n'a pas tout autour de nous des modèles. Si c'est pas naturel et normal de le faire. Et donc c'est tout simplement pour ça que les femmes ont besoin aujourd'hui d'accompagnement et que les entreprises ont aussi besoin d'accompagner leur talent féminin.
Vous êtes optimiste ?
Complètement. Je suis très optimiste parce que je vois que les choses évoluent. Je vois aussi que quand on accompagne les entreprises et qu'on accompagne les talents féminins, en fait, l'impact est énorme. Je vois que les femmes accèdent aux postes de CODIR, COMEX. Je vois qu'elles réussissent à négocier des packages, des augmentations, des primes, etc.
J'ai l'impression qu'il y a un retour sur investissement qui fonctionne pour l'entreprise et pour les femmes.
Oui, complètement. Et puis, il y a vraiment... Je crois que le bénéfice global, c'est plus de performance pour les entreprises. Et puis, aussi, beaucoup plus d'épanouissement.
Merci beaucoup, Jenny Chamas, coach spécialisée dans les femmes dirigeantes. C'est la fin d'Happy Boulot le Mag pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business. Je vous souhaite un excellent week-end.
BFM Business, Happy Boulot le Mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.